Vous écoutez France Culture.
7h43, 6 mois nous séparent donc désormais de la 21e conférence sur le climat de l'ONU qui se déroulera à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Une annonce qui sonne donc comme un compte à rebours. 6 mois pour éviter un échec qui viendrait s'ajouter au précédent et qui limiterait de plus en plus les moyens d'action nécessaires à enrayer le réchauffement climatique planétaire. Trouver un accord pour limiter ce réchauffement à 2 degrés, c'est l'objectif affiché de cette conférence. Et pour se donner les moyens d'éviter un échec à la Copenhague, les négociations vont bon train. D'ailleurs, depuis lundi et jusqu'au 11 juin, une séance de négociation se tient en ce moment à Bonn, en Allemagne, pour avancer sur un texte susceptible de servir de base à un accord commun en décembre. Quels objectifs sont donc affichés par les organisateurs? Pour quels moyens? Comment arbitrer entre la volonté d'obtenir un accord exigeant et celle d'obtenir un accord contraignant? Ce sont autant de questions que nous aborderons tout ce matin jusqu'à 9h. Et il en sera question aussi d'ailleurs dans la journée avec, pourrait-on dire, pardonnez-moi de la trivialité de ce propos, Laurence Tubiana, mais avec deux as du climat. Laurence Tubiana, bonjour. Vous étiez venu nous voir déjà ici au matin de France Culture et nous sommes très honorés de vous avoir parce que vous êtes toujours sur la planète d'un avion à l'autre et vous n'êtes donc ni plus ni moins que l'ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, hein, représentante spéciale de la France pour la conférence Paris Climat 2015. Un petit mot tout de même, c'est lourd à porter sur les épaules ou vous sentez la pression ou pas trop encore?
Il y a des jours où c'est pas évident, surtout quand tout le monde vous dit c'est la chose la plus importante du siècle. Bon, c'est toujours un peu exagéré, ou quand il y a des formulations, c'est pour sauver la planète, donc c'est un peu lourd.
Oui, c'est bon. Superwoman, quoi. Hein. Bon, on veut jouer le rôle de sauver la planète, c'est
d'ailleurs,
votre rôle.
J'ai des béquilles là pour quelques semaines, mais je pense que ça vient, je tiendrai le choc.
Et puis, nous sommes avec Hervé Kempf, bonjour. Vous avez tenu longtemps la chronique écologie au Monde, vous êtes le fondateur du journal Reporter, hein, devenu un site internet en 2008, et vous serez là pour, en deuxième partie, dans la partie débat, éventuellement porter, qui sait, je ne sais, la contradiction, donner vos avis et nous faire partager les compétences qui sont aussi les vôtres. Mais il faut savoir qu'alors que la conférence est en pleine préparation, il y en a qui vont plus vite que la musique, sans doute impatients que les choses bougent. Ce sont les étudiants de Sciences Po et d'une vingtaine d'universités étrangères qui ont préjoué le week-end dernier au Théâtre des Amandiers de Nanterre leur propre conférence climat. Et vous n'y êtes pas pour rien d'ailleurs, Laurence Tubiana. Un moyen, hein, tout en reprenant les règles essentielles de la diplomatie climatique, d'expérimenter de nouveaux modes de négociation. Alors quel enseignement tire-t-il de cette expérience? Comment imagine-t-il les négociations? Ils sont avec nous. Bonjour Alice Maréchal. Prenez le micro, Alice Maréchal, Delphine Bumereau.
Bonjour.
Et Victor Wright. Bonjour. Voilà, tous trois étudiants. Vous avez donc joué la pièce, en fait, qu'on va entendre ce soir sur France Culture.
Exactement. Donc on a, en fait, joué en avance ces négociations climatiques, mais on les a jouées aussi d'une manière différente, en essayant de voir comment est-ce qu'on pouvait rendre ces négociations plus réalistes, en incluant des acteurs qui sont des acteurs non étatiques.
Ouais. Alors déjà, comment rendre réaliste le fait que vous, monsieur Victor Wright, vous jouiez le week-end dernier Laurence Tubiana, qui est à côté de vous. Je ne vous mets pas la pression, hein, mais...
Donc voilà, mon rôle était donc au sein de la délégation française de jouer le rôle de Madame Tubiana et donc de chercher un accord équitable, ambitieux et universel. Donc rechercher un consensus, mais rechercher un consensus ambitieux et désenclencher les conflits. Je tiens à dire que c'est pas un rôle facile du tout. Mais que...
Vous aviez des béquilles, vous, ou pas?
J'avais une attelle au genou.
Ah ben voilà, très bien, vous êtes bien dans le rôle.
C'est Acteur
Studio.
La
ressemblance.
Acteur Studio.
Exactement.
Laurence Tubiana, deux mots tout de même sur cette initiative-là, et puis on entendra. En quoi est-elle, cela dit, représentative, hein, ça n'est pas seulement juste, on va dire, pour s'amuser, hein, que de faire une fiction et le théâtre des négociations qui vont jouer, qui ont déjà joué cette conférence sur le climat. Est-ce que ça veut dire tout de même qu'aujourd'hui, le travail que vous faites et que font vos homologues, il est aussi d'imaginer d'autres moyens de négociation parce que le sujet, au fond, est limpide d'un côté? Il faut sauver la planète, pour le dire clair, mais il est très compliqué de l'autre parce que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs au même moment. Est-ce que ça veut dire que ça induit de nouvelles choses, on va dire, dans la diplomatie environnementale et entre les pays?
Oh, tout à fait, et d'ailleurs beaucoup d'éléments qui ont été testés dans la simulation au Théâtre des Amandiers sont déjà un peu en marche dans la vraie vie, je dirais, dans la vraie négociation. Et pourquoi? C'est que depuis 92 et surtout depuis Kyoto, on voit bien qu'on est dans un système d'essais et d'erreurs dans cette négociation sur le climat. Exactement pour les raisons que vous avez décrites. C'est très simple, mais c'est très compliqué. Et comme c'est très compliqué, on essaye des formules. Alors à Kyoto, on a essayé quelque chose de arithmétique. On divise les émissions de gaz à effet de serre et on essaye de les distribuer entre les pays. Ça n'a pas marché. On a essayé d'autres choses à Copenhague qui n'ont pas marché non plus vraiment. Et là, on fait un nouvel essai en élargissant d'ailleurs très largement les acteurs impliqués. Et ce qui s'est passé au Théâtre des Amandiers est une, au fond, une préfiguration de là où on pourrait aller un peu plus loin dans les vraies négociations. Donc ce système d'innovation, il fait partie de cette difficulté à trouver la solution.
Mais donnez-moi un exemple concret. Qu'est-ce que vous pensez avoir inventé ou qu'est-ce que vous pensez qui s'invente sur la question, on va dire, de la diplomatie ?
Eh bien, par exemple,
entre gens aussi différents qui n'ont pas, encore une fois, les mêmes intérêts forcément, si ce n'est qu'a priori, on a tous le même intérêt commun à nouveau, celui qu'on ne dépasse pas, on va dire, les 2 degrés de réchauffement climatique.
Il y a eu une innovation qui s'est faite dans la vraie vie, dont je vais parler rapidement, et puis l'autre qui est en train d'émerger et qu'on essaye d'ailleurs d'amener pour Paris. La première, c'était de passer de l'idée, on part de la science qui dit ce qu'il faut faire, et après, les pays se disputent entre eux pour savoir comment ils vont arriver à l'objectif. Et après Copenhague, l'idée a été de dire, il faut qu'on revienne vers ce que veulent faire les pays eux-mêmes, puisqu'on est dans un monde fragmenté, il n'y a pas un leader qui peut dire à tout le monde quoi faire. Et donc, on est venu sur une méthode qui consiste à dire qu'est-ce que peut faire chacun et jusqu'où il peut pousser le ballon le plus loin possible sous le regard des autres, avec des résultats qui sont à la fois positifs, j'y tiens absolument, mais aussi, évidemment, qui ont leurs limites. Et puis, là, pour Paris, et c'était déjà en germe avant, oui. Et le Théâtre des Amandiers l'a montré.
Il y avait déjà eu une expérience de ce type-là en 2011.
On l'avait fait à Sciences Po, avec un effet formidable sur les étudiants. Je retrouve mes étudiants dans toutes les délégations, donc presque, il y a peut-être 50 de mes étudiants qui sont dans les délégations éthiopiennes, américaines, de la Commission européenne, du Trinidad et Tobago. Je les retrouve et il n'est pas rare que dans un couloir de négociation, j'entends « professeur, professeur » et que quelqu'un me rattrape. Et c'est même si vrai que même à Davos, là au sein des seins des grandes entreprises, j'ai entendu aussi une de mes étudiantes, une indienne, qui maintenant travaille dans le groupe Tata, me dire « professeur, voilà, je m'occupe des questions d'environnement et de climat chez Tata ».
Par donc, parenthèse, rappeler que vous êtes professeur à Sciences Po et aussi à l'Université de Columbia.
Donc là, pour Paris, c'est ce qui a été joué pour de vrai au Théâtre des Amandiers, c'est le fait que des acteurs non étatiques, en particulier les collectivités locales et les entreprises, soient autour de la table. C'est déjà presque en train de se faire.
Ce sera la particularité de la vraie, on va dire, COP 2015.
On va essayer de trouver une manière de reconnaître ce qu'elles font et de créer un espace politique où les entreprises, les collectivités locales, les ONG discutent avec les gouvernements. Ce qui aujourd'hui se fait dans les couloirs ou se fait sous forme de lobby, on voudrait trouver une manière d'institutionnaliser cela. Pourquoi ? C'est largement parce que cette action du climat, elle est très compliquée. Elle mobilise des intérêts divergents, très compliqués aussi, et qu'il faut arriver à soutenir les gouvernements pour qu'ils puissent y arriver. Et c'est ces plateformes, au fond, de soutien, mais de coopération en même temps, qu'il faut créer, qui aujourd'hui n'existent pas en tant que telles. Donc la porte est fermée vis-à-vis des ONG, des entreprises, des collectivités locales. Il y a de bonnes raisons pour ça, des questions de légitimité, évidemment. Mais aussi, on voit bien que ça craque sous l'influence du réel, parce que l'économie réelle, elle a besoin de tous ces acteurs-là pour changer. Donc, ce qui a été testé aux Amandiers, on va essayer de lui faire une petite place, une place dans l'accord de Paris. Mais je ne suis pas sûre d'y arriver.
Delphine Blumereau, Alice Maréchal, vous avez le sentiment, vous aussi, comme Laurence Tubella, que pendant un moment, le sort de la planète était sur vos épaules, tout entier ?
Oui, complètement.
C'est Delphine Blumereau qui parle.
Voilà. Donc moi, je préside aussi Climate, qui est un laboratoire d'idées et d'action internationale sur les changements climatiques composé de jeunes, et on est membre fondateur de la simulation. Et c'était étonnant de voir des étudiants qui craquaient, dès le deuxième jour, qui pleuraient parce que l'enjeu est tellement énorme, en fait, que quand on s'y prend vraiment au jeu, on a l'impression de porter le poids entier du monde sur ses épaules.
Mais cette expérience-là, vous l'avez faite par amour du théâtre ou par amour de l'environnement ?
Ah non, de l'environnement. Nous, on est engagés dans cette assaut. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés, qui prennent vraiment ça à cœur. Donc c'était un jeu, mais c'était pas un jeu au final.
Alice Maréchal, vous avez joué la Polynésie française, territoire en danger. C'est quoi, ça veut dire quoi?
Non, alors j'ai pas joué la Polynésie française, moi j'étais secrétaire générale de l'ONU.
Ah bon, alors j'ai une mauvaise information sur ma feuille. Mais enfin, alors vous jouiez quoi donc?
Donc là j'étais secrétaire générale des Nations Unies.
Ah oui, d'accord, oui, rien que ça.
Oui.
Et alors, qu'avez-vous obtenu vous dans cette COP21?
Bah, dans la simulation, le secrétariat a été très chamboulé quand même, puisque l'idée c'était de repenser les négociations climatiques. Donc du coup, c'est vrai que la légitimité du format onusien a été beaucoup contestée. Et pour nous, ça a été parfois un peu difficile de trouver notre place, parce qu'on s'est bien rendu compte, enfin les étudiants ont eu un espèce de choc de réalité, et ils se sont rendus compte que la notion de consensus c'était vraiment bloquant.
Et nous, on est un peu l'incarnation du monde passé.
Alors, ça sera ce soir, donc je le rappelle, à 20h30, on vous écoutera. Vous restez avec nous, évidemment, vous intervenez quand vous voulez pour nous donner quelques informations sur ce que vous savez, vous, de cette COP21. Mais tout de même, il va y avoir le vrai dur, hein, si j'ose dire. Laurence Tubiana, c'est au mois de novembre prochain, à Paris, fin 2015, la conférence sur le climat COP21. Quels sont les enjeux de cette COP? On avait ici, il y a un mois, le 29 avril dernier, Nicolas Hulot qui nous disait justement quels étaient, selon lui, les objectifs et critères concrets qui feraient que l'on pourrait dire que la COP21 aura été utile.
Premièrement, est-ce que la somme des engagements des États nous met sur une trajectoire des 2 degrés? Et j'insiste bien, 2 degrés ne sera malheureusement pas indolore, mais c'est seulement en l'état ce que nous sommes capables éventuellement d'atteindre. Mais on jugera la force de l'accord, la crédibilité de l'accord, aux outils qui accompagneront ces engagements et qui nous permettront de les réaliser. Est-ce qu'on va se fixer enfin un prix au carbone? Est-ce que les 15 États qui sont au G20 et d'ailleurs qui seront en Turquie 15 jours avant la conférence de Paris vont enfin se mettre d'accord là-dessus? Deuxièmement, est-ce qu'on va être capable de répondre aux exigences légitimes rappelées en boucle depuis des années, de permettre dans le même accord aux pays les plus vulnérables de s'adapter au changement climatique auquel ils sont d'ores et déjà confrontés? Troisième chose, est-ce qu'on va être capable de permettre aux pays qui veulent se développer légitimement de se développer avec des énergies propres en leur donnant accès facilement aux technologies propres? Les 195 États, ils font un accord universel, doivent apporter leur contribution, mais ça doit être évidemment au prorata de leur capacité, de leur situation et de la responsabilité historique. Et si les 15 pays, d'ailleurs, qui sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre, n'en font pas plus que les autres, évidemment, l'accord n'aura aucune chance d'être établi.
Laurence Tubiana.
Alors, il y a... je ne sais pas si je définirais le succès de Paris exactement de la même façon. Il y a évidemment ce que dit Nicolas Hulot est tout à fait fondé sur tous les points, d'ailleurs, mais tout ne sera pas dans l'accord. C'est peut-être ça la nuance sur laquelle je vais apporter, mais avec lequel... parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est le résultat de Paris et pourquoi, d'ailleurs...
Vous voulez quel résultat, vous?
Alors, le résultat, moi, il est très simple. Le 12 décembre matin, vous, dans les matins de France Culture, vous dire ça a marché parce qu'au fond, tout le monde est persuadé, et tout le monde va le faire, que cette économie sobre en carbone, elle est là. Elle est en train de se développer. Elle est inévitable. Et que c'est ça, le futur. C'est ça que je cherche pour le 12 décembre. Après, pour y arriver à ce headline, à ce titre... il me faut plein d'éléments. L'accord, dont parlait Nicolas Hulot tout à l'heure, et où là, il y a beaucoup de critères, donc je pourrais revenir sur les critères du succès de cet accord.
L'accord de 195 pays, donc.
Voilà, l'accord juridiquement contraignant de 195 pays. Il faut effectivement que ça change dans les pays, donc les éléments, les propositions des pays, ce qu'on appelle dans notre jargon les contributions, en fait les engagements nationaux soient suffisants, j'y reviendrai tout à l'heure, ils seront... probablement pas suffisant pour nous amener exactement là où on veut, mais ça va être une première marche. Il nous faut un système financier qui réponde, et c'est ça l'idée à la fois du prix du carbone, mais de beaucoup d'autres choses qu'il faut mettre en place pour que l'argent aille non pas à acheter des appartements à Paris, mais à investir dans les énergies renouvelables.
Et ça, c'est une de vos idées majeures pour cette COP21, oui. Entre autres. C'est une innovation.
Tout à fait.
C'est très signé, c'est très Tubiana, ça.
Ce qui est Tubiana, c'est l'idée d'avoir dit il nous faut un paquet de choses. Et il faut aussi que les acteurs non gouvernementaux, en particulier les collectivités locales et les entreprises, disent on va le faire. On a un plan sur le climat, on a une vision du futur. Et ce que j'ai demandé d'ailleurs à tous les étudiants pour la simulation, c'est de dire, vous perdez pas dans les détails techniques, ce qu'on veut c'est quelle est la vision de 2030-2050, où est-ce qu'on voudrait être? Et après on fait le chemin en arrière. C'est aussi une idée que j'essaye de mettre le plus possible dans la vraie négociation. C'est partir de là où on veut aller et se dire quelle est la trajectoire pour y aller. Elle a des étapes, cette trajectoire. On ne peut pas faire les choses du jour au lendemain. C'est un... Enfin, l'image du tanker qu'il faut réorienter, elle est très juste. C'est très lourd de réorienter un système énergétique. C'est très lourd de changer la manière de faire de l'urbanisation. Donc tout ça ne peut pas être du jour au lendemain. Donc le paquet de Paris, c'est tout ça, ce qu'on appelle d'ailleurs l'Alliance de Paris pour le climat. C'est ce que qu'on aimerait développer comme concept. C'est tous ces éléments. Et dans ces éléments, on retrouve bien sûr ce que Nicolas Hulot disait, vraiment des choses pratiques et concrètes, des actions tout de suite, notamment pour les pays vulnérables, en particulier l'accès à l'énergie renouvelable en Afrique, dont ça va faire partie non pas de l'accord, mais des éléments qui vont soutenir l'accord. De la même façon, cette question du prix du carbone, on sait qu'on ne va pas sortir de l'accord avec un prix du carbone. Pourquoi ? C'est que les pays, d'abord, ne sont pas tous d'accord pour utiliser cet instrument économique. Deuxièmement, ça a forcément une valeur très différente entre ce qui peut en Inde, aux États-Unis, en Europe. Et donc l'idée qu'on a un prix du carbone qui donnerait une clé pour tout le monde au même prix n'est pas réelle. En revanche, ça peut être différent selon ça, dans chaque économie. Et donc, il y a plein de... C'est pour cela que j'ai poussé le gouvernement et j'ai proposé à Laurent Fabius, à Ségolène Royal et au président de la République d'avoir une vision large de l'accord de Paris.
Alors, sur la SAI, pour l'instant, c'est pas tout à fait gagné, ça, Laurent Simana. Le temps de Genève, entre autres, dit qu'on redoute un échec à cause des querelles sur les méthodes de négociation ou pas de cette conférence sur le climat. Ça y est, c'est le temps de Genève d'il y a 3 jours. Paris craint un échec parce qu'il y a de la bisbille.
La bisbille est une mauvaise chose. Ça a tout de même, non pas coûté l'accord au gouvernement danois, parce que c'est pas ça. La vraie raison de l'échec de Copenhague, c'est un mauvais jugement sur le monde.
Alors nous y reviendrons dans quelques instants. J'ai envie d'utiliser une comparaison, une métaphore cinématographique. Hitchcock disait que si au fond, entre ce qu'il écrivait comme scénario et quand au final il voyait le film, il retrouvait à peu près 50 à 55% de ce qu'il avait voulu, c'était une réussite. Est-ce que vous vous donnez un peu ce genre d'objectif-là, au fond ? Un pourcentage, un thermomètre de la réussite ?
Oui, j'ai la barre, et puis je vais la pousser au maximum. On va tous la pousser au maximum, mais bien sûr que ça ne sera pas 100%.
Il reste moins de 24 heures. Si on continue comme ça, c'est l'échec.
Voilà, ça c'était Nicolas Sarkozy.
On se souvient très bien.
Pour introduire Brice Couturier à 8h15. Bonjour Brice.
Bonjour Marc. Oui, je voudrais embrayer sur ce que vous venez de dire. On accuse déjà les Français de se résigner d'avance à un compromis au rabais afin de ne pas apparaître comme les organisateurs d'un nouvel échec après Copenhague. Alors qu'en est-il ?
Et voilà, ce sera y réponse tout à l'heure donc avec vous, Laurence Tubiana, Hervé Kempf, qui est avec nous, et nos 3 étudiants de Sciences Po, Alice Paréchal, Delphine Blumereau et Victor Wright. C'est comme ça qu'il faut dire, hein ?